Glander, c'est bien.
Ouais. Reposez-vous.
Ouais.
Dormez. Et il y a des moments de pause, de vraie pause. C'est super ce que Justine a dit.
Pleurez si ça vous fait du bien.
Ne culpabilisez pas.
On n'est pas toujours obligé aussi de faire du sport, de commencer la broderie. Non. Et de en fait, des fois, Netflix, c'est bien.
Moi, des fois, je médite en faisant la vaisselle.
Oui. Et puis la méditation, c'est pas que assis. Oui, on est complètement d'accord. Oui, en fait, trouvez les choses qui vous font du bien et celle-là, allez-y à fond.
Et si c'est pas le yoga, c'est pas grave.
Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de Design en Recherche, l'association des jeunes chercheurs et chercheuses en design. Pour ce deuxième épisode, nous sommes trois doctorantes, Justine Penaud, Élise Goutani et Marion Voileau. Nous allons prendre quelques minutes ensemble pour parler du bien-être, sujet complexe dans le monde académique. Un sujet d'autant plus d'actualité avec la sortie du livre d'Adèle Comble, la réforme de l'enseignement supérieur ou encore le mouvement Balance ta thèse. La santé est souvent mise de côté au profit d'une forme de productivité et d'utilitarisme de la recherche. Lire, écrire, produire du savoir et de la connaissance, à quel prix ? Alors pour commencer, je propose que l'on s'introduise chacune en quelques phrases. Je te propose de commencer, Justine.
Merci Marion. Moi c'est Justine Penaud. Je fais une thèse CIFRE depuis 4 ans, enfin, je suis en quatrième année de thèse CIFRE, que j'ai faite dans une agence de design. Et je suis rattachée au laboratoire du Co-Design Lab au sein de Télécom Paris. Et mon sujet de thèse porte sur la co-conception entre experts et non-experts de design.
Merci Justine. Élise ?
Oui, donc moi c'est Élise Goutani, je suis en troisième année de thèse en design graphique à Paris 8, dans le labo AYAC, et je travaille sur les pratiques graphiques féministes.
Merci Élise. Et moi c'est Marion, et je suis donc actuellement doctorante au sein du CRI, ici à Paris où nous enregistrons ce podcast, au sein du laboratoire de l'IRCAM, Institut de Recherche Coordination Acoustique et Musique du Centre Pompidou, au sein de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement, et du Centre de Recherche en Design, associé à l'ENS Paris-Saclay et à l'ENSI Les Ateliers. Alors, la première question, ça va être, qu'est-ce que le bien-être pour vous ? Je peux commencer si vous voulez. Alors, le bien-être pour moi, c'est vraiment cette capacité qu'on a à prendre soin de soi, mais aussi à prendre soin des autres et de notre environnement. C'est vraiment cette idée que l'on peut comprendre nos besoins, et mieux comprendre nos besoins pour comprendre ceux des autres. Et ça passe, je pense, éminemment par du dialogue, de l'écoute et beaucoup, en fait, de bienveillance envers soi et envers le monde qui nous entoure.
Moi, je dirais que, déjà, c'est l'inverse du mal-être, en fait, tout simplement. Enfin, je trouve que ça lui redonne un peu un sens plus fort, parce que c'est une expression qui est aussi pas mal utilisée dans le milieu de la cosmétique ou du spa, ce genre de choses. Et pour moi, ça se limite pas à ça. Et finalement, ça se rapporte surtout à la santé, en fait. Surtout la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle. C'est ça, pour moi, qui forme le bien-être.
Et pour moi, c'est aussi, mais vous l'avez déjà un peu dit, c'est être capable de dialoguer avec soi-même pour pouvoir voir et percevoir ce qui nous fait du bien et de pas être, culpabiliser, de pouvoir faire ce retour sur soi. Surtout quand on est en thèse, c'est un temps qu'on peut prendre pour soi et qu'on n'a pas forcément dans d'autres carrières, enfin quand on enchaîne directement dans la vie professionnelle. Donc c'est aussi ça.
Je trouve que c'est très intéressant que tu parles, toutes les deux, vos définitions sont très intéressantes quand on parle de santé mentale, santé psychique, c'est très important. Et ce que tu dis, Justine, c'est que pour prendre, que la thèse est un moment pour prendre soin de soi, et ça paraît un petit peu un oxymore quand on parle de la thèse, le bien-être. Et justement, peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu as mis en place dans ton doctorat pour prendre soin de toi ?
Alors, quand j'ai commencé ma thèse, forcément, j'étais naïve et un peu... optimiste, enfin bon c'est normal, et en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas juste être en thèse, que j'avais besoin aussi de garder d'autres activités à côté, et notamment des activités qui me permettent de sortir de la réflexivité en permanence, et donc j'ai commencé à repratiquer du sport, donc c'est très pragmatique, mais en fait aller deux fois à la natation par semaine et me vider littéralement la tête, c'est-à-dire pendant une heure et demie, je ne pense à rien d'autre qu'à nager et au bout du bassin et aller de l'autre côté. Et voilà. Et ça fait un bien fou. Et il y a aussi fabriquer des choses, parce que donc, je suis dans une thèse en sciences humaines et en design, mais en fait, et dans une agence, mais j'ai peu fabriqué de choses pour moi. Ou en tout cas j'ai peu fait de projets de conception qui m'animaient et du coup j'ai commencé à fabriquer aussi et prendre le temps de ne plus être que dans l'écriture constante.
Moi je te rejoins pas mal Justine sur cette idée de fabriquer des choses, enfin, c'est le cas parce qu'on est en design, mais c'est aussi le cas je pense pour d'autres domaines du doctorat, enfin la thèse c'est un temps long où on est souvent, parfois on travaille seul, surtout quand on est dans des disciplines qui sont rattachées aux sciences humaines et aux arts, etc. On n'a pas forcément un labo, un endroit où on va travailler tous les jours. Et du coup, je trouve que les activités manuelles ou juste avoir des plantes, enfin c'est vraiment des trucs tout cons, mais en fait ça ramène une temporalité qui est plus courte où on arrive à finir quelque chose. À défaut de finir sa thèse parce que c'est très long. Donc ça c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et puis pour moi, c'est ce que tu disais Marion, c'est un peu paradoxal de se dire que la thèse c'est un moment pour prendre soin de soi. Mais finalement je pense que c'est assez logique aussi, justement parce que comme on est sur un temps long et sur un côté peut-être un peu de solitude parfois, on peut aussi décider ou avoir la nécessité de s'en servir spécifiquement pour prendre soin de soi. Bon là je raconte un peu ma vie, mais moi j'ai des soucis d'anxiété qui m'ont pas mal bridée par le passé. J'ai vécu du harcèlement scolaire et dans mes relations aux autres, il y a souvent des moments où j'ai dû m'effacer. Et du coup ça s'est vu dans certaines relations aux autres où une de ces relations s'est avérée être remplie de violences psychologiques que j'ai pas su détecter au départ. Et en fait, c'est dans le moment de ma thèse que j'ai réellement pu prendre le temps et avoir besoin de ce temps pour entamer une thérapie, pour mieux comprendre la relation que j'avais avec les autres. Et pour moi, la thèse, c'est le moment idéal pour faire ça, justement parce qu'il n'y a pas... comme tous les impératifs sont sur le temps long, c'était plus facile pour moi de dégager du temps pour faire ça pendant ma thèse qu'avant dans mes études où tout allait à 100 à l'heure, en fait. Et du coup, c'est pendant ma thèse que j'ai vraiment pris la décision de faire passer ma santé, mon bien-être, ma santé mentale avant tout le reste et même avant la thèse finalement. Et c'est ça qui me fait avancer dans la thèse aussi.
Je me retrouve vraiment dans vos deux parcours. Alors toi Justine, je me retrouve avec cette activité physique. Enfin, moi j'ai continué la danse, j'ai continué le yoga. J'ai repris la danse en fait, que j'avais arrêtée pendant mes études. Parce que justement, comme tu le dis Élise, le moment des études, c'est un peu le moment où en fait on vit pour ses études, pour son diplôme. En plus les études de design ou de création, parce que moi j'ai fait architecture avant de faire design, c'est des périodes assez intenses de créativité où on en oublie presque qu'on a un corps et que ce corps il passe aussi par une activité physique qui autre que faire la fête ou boire des coups, ce qui est super aussi et qu'il faut continuer à faire aussi en thèse, très important. Je pense que ça vous fait rire, mais je trouve qu'il faut le dire, continuez à voir vos amis, voir vos familles, même si parfois on se sent complètement en dissonance avec eux parce qu'on est tellement dans notre sujet, tellement entouré de chercheurs au quotidien, de gens qui ont une réflexivité intense, et quand on arrive parfois à ces repas de famille ou ces repas entre amis, on se dit mais purée, il faut que je mette mon sujet de côté, il faut que je mette ma thèse de côté, il faut que j'arrive à m'amuser, à lâcher prise aussi vis-à-vis de cette exigence qu'on nous demande en tant que chercheur ou chercheuse. Et je trouve que ça c'est important de se dire qu'il faut quand même avoir une vie sociale. Et je te rejoins complètement, Élise, sur cette idée aussi de ce moment de réflexivité. En fait, on est quand même confronté à soi-même, donc à sa connaissance dans le sens propre d'écrire un manuscrit et de faire une recherche, mais aussi c'est vraiment un temps pour soi, et c'est un temps qui est parfois très complexe parce qu'on analyse autant de sujets qu'on s'analyse soi-même. Il y a une personne au début de ma thèse qui m'a dit « Tu vas voir, la thèse, c'est un peu une psychothérapie. » Et je trouve ça assez drôle, mais assez juste. En fait, c'est un moment de réflexivité assez intense. Alors, parfois, c'est un peu dur. Hein. Moi, personnellement, je pleure beaucoup, je le dis. Je ris aussi beaucoup, hein, tout va bien. Mais c'est important de se dire que, voilà, on a des émotions et que ces émotions, elles peuvent aussi servir notre travail de recherche. Et c'est ça, en fait, prendre soin de soi. C'est aussi de se dire, parfois, bah, ça va pas. Et parfois, en fait, c'est super aussi ce que je fais. C'est dur, hein, de se dire que c'est bien ce qu'on fait en thèse. Et on est souvent très exigeant avec soi-même. Mais voilà, moi, c'est par ça. Et puis, il y a une autre chose que j'ai découvert pendant la thèse. Alors, peut-être parce que OCRI, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'université pour nous en tant que doctorants. C'était des séances de méditation. Moi, j'ai découvert la méditation de pleine conscience. Alors, on va dire encore un sujet à la mode. Elle est en train de nous parler de la méditation. Ouais, super. Mais vraiment, la méditation a été pour moi une ressource fondamentale à une période aussi un peu compliquée de ma vie. Et pas que par la thèse, par plein d'autres choses. Et la méditation de pleine conscience, moi, je le recommande. Enfin, j'ai presque envie de le rendre au moins obligatoire dans l'essai pour tous les doctorants. Mais alors, c'est peut-être un peu... un peu pushy, mais que ça va à l'encontre, mais c'est juste au moins essayer de se retrouver soi-même, de reprendre contact avec son corps qu'on oublie au profit de la tête, et ça m'a permis ça, même si pourtant j'avais la danse et le yoga à côté, mais voilà, je sais pas si vous voulez compléter.
Bah, c'est vrai que bon, moi la méditation, chez moi ça marche pas du tout,
voilà.
Mais on trouve d'autres trucs en fait, moi je trouve que le rapport avec... la nature, les plantes, enfin retrouver une espèce de forme de calme et de sensorialité aussi assez simple, ça peut aider pas mal à se réancrer. Aussi parce que la thèse, même quand on n'est pas en train de travailler et même quand on n'arrive pas à travailler, en fait ça mouline, c'est une espèce de tâche d'arrière-plan qui est un peu tout le temps là. Et du coup, soit on essaye de la chasser et d'arriver à couper quand on est avec ses amis ou sa famille, comme tu disais. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce de forme d'acceptation que ça va continuer à tourner et qu'il faut qu'on arrive à focus sur autre chose parfois, mais d'accepter cette espèce de tâche d'arrière-plan. Enfin, je trouve que la séparation entre le travail et la vie privée en thèse, c'est un casse-tête improbable en
permanent
fait.
Alors vous voyez pas, mais Élise, elle a un très beau pull dans lequel elle a brodé de nombreuses fleurs, donc on sent qu'elle a pris beaucoup de temps et pour elle, pour broder, et on en avait parlé toutes les deux quand on était parties en retraite, et Élise brodait et je me disais, mais c'est super beau parce qu'elle tisse des liens dans sa tête, mais elle tisse aussi des liens sur ses pulls. Et voilà, je ne sais pas si on pourra mettre une petite photo, mais c'est assez, assez magnifique.
Oui, carrément.
Quelle belle métaphore, Marie.
En introduction, on a introduit une petite polémique aussi, qui est ce bien-être du doctorant qui est aujourd'hui au cœur des débats publics. Et j'aimerais bien que vous me disiez aussi ce que vous pensez du milieu académique. Et à cette injonction peut-être de la productivité de la recherche, et puis ces formes d'autorité aussi, qui sont parfois très dures. Alors on ne le retrouve pas que dans la recherche, mais c'est très valable dans la recherche. Et justement, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce système académique, et même en amont en fait, de nos études aussi, qui sont bourrées d'injonctions, qui sont bourrées d'autoritarisme? Alors bon, il y a Élise, hein, qui va nous parler peut-être de patriarcat, je ne sais pas. Mais tout ça est forcément aussi un peu lié. Bon, là, on est trois femmes, on aurait adoré avoir un homme aussi autour de cette table. Hein. Donc peut-être on peut en parler.
Alors pour parler un peu du côté académique, en fait, honnêtement, moi, j'ai pas envie de parler de sexisme dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, parce que juste, je travaille déjà tellement sur ça tout le temps que là, c'est... Enfin, mais évidemment, ça existe et c'est super important d'en parler. C'est aussi hyper présent dans la relation hiérarchique qu'il y a entre les directeurs et directrices de thèse et leurs doctorants et doctorantes. Donc évidemment que là-dedans, il y a la couche aussi du sexisme, du racisme et d'autres oppressions qui se rajoutent. Donc ça crée des situations qui sont hyper compliquées. Et le problème qu'il y a aussi, c'est, je pense, dû au statut des doctorants, parce que t'es étudiant, mais t'es pas vraiment étudiant. T'es chercheur, chercheuse, mais en fait t'es pas encore reconnue comme chercheuse vraiment, et puis en même temps c'est toi qui fais tourner l'université parce que t'es chargée de cours, parce que t'es vacataire pour financer ta thèse, et du coup en fait on a constamment des multiples casquettes qui font qu'on n'est jamais vraiment, on se sent jamais vraiment légitime, quel que soit l'endroit où on est dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce que quand on a de multiples casquettes, ben, on n'en a pas une seule qui nous permette d'avoir cette autorité. Et donc, en fait, il y a des personnes individuelles qui en profitent. Et c'est le cas, voilà, quand il y a beaucoup de témoignages sur Balance ta thèse, etc. Il y a des personnes individuelles, mais il y a aussi un système qui est vraiment fondé là-dessus. C'était Rogue ESR et puis d'autres associations qui luttent justement pour les droits, notamment des personnes précaires dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui disaient qu'à partir du 26 janvier, l'université ne fonctionne plus grâce aux titulaires, mais fonctionne grâce à tous les vacataires, toutes les chargées de cours, tout ce monde-là. Parce que si on compte exclusivement les heures qui sont faites par des titulaires, et ben au 26 janvier, paf, l'année universitaire, si on comptait que sur les titulaires, ils auraient déjà fait toutes leurs heures et ce serait terminé. Donc, en fait, il y a énormément de travail invisible. Et ce travail invisible, il est beaucoup, beaucoup fait par les doctorants, en fait.
Oui, et bon, moi, du coup, j'ai plutôt une expérience de l'entreprise, enfin, de la dichotomie entre être chercheur dans une entreprise, et dans mon cas, plutôt être designer dans une entreprise et chercheur dans un laboratoire. Et c'est encore différent parce que donc, le monde académique, il est très éloigné, en fait, parce que je pense qu'il s'intéresse peu aux doctorants chiffres, étant donné que, en fait, tout roule, on a un salaire, on est dans une entreprise, a priori, on est bien loti, et en fait, on rencontre plein de difficultés où, dans lesquelles on n'est pas tellement soutenu parce que c'est difficile de dire en fait je suis employée comme une ressource aujourd'hui, je fais pas ma thèse. Quand on fait des rapports auprès de la NRT, en fait on est toujours, enfin en tout cas ça a été mon cas, moi j'étais toujours, je disais pas vraiment ce qui se passait parce qu'en fait on sait très bien que l'aide va pas être apportée et que du coup on préfère se tourner, moi j'ai eu la chance de pouvoir me tourner vers ma directrice de thèse qui à chaque fois a mis le holà régulièrement, il a fallu le faire très régulièrement, tous les 3 mois il fallait rappeler à l'entreprise que j'étais doctorante et donc c'est encore différent de pouvoir, enfin de pas savoir vers qui se tourner, à l'exception de son directeur de thèse qui a par ailleurs d'autres choses aussi à faire de son côté et qui peut pas être toujours présent en fait non plus. Enfin, on peut pas compter que sur une personne. Normalement, c'est tout un système qui doit pouvoir supporter ça. Voilà. Mais je sais. Enfin, après, il faut rester positif quand même. Je pense qu'on est capable aussi de mettre des choses en place et du coup, tu en as parlé avec la méditation, etc. Il y a aussi pouvoir compter sur le laboratoire et donc ses collègues doctorants. Qui eux peuvent aussi, ne serait-ce que dans le partage en fait, qu'on va avoir avec eux lors de séminaires, etc., ça permet aussi de partager des solutions qui sont parfois des tout petits moyens d'action à mettre en place et qui en fait te permettent d'avancer toi-même.
D'avancer et de relativiser aussi.
Oui.
Moi je sais que toutes ces discussions aussi, elles m'ont fait prendre conscience que j'avais beaucoup de chance. Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de mal-être, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être extrêmement bien entourée. Mais autour de moi, j'ai fait face à je pense à, j'ai 2 situations en tête de personnes assez proches de moi, pour lesquelles ça a été extrêmement compliqué. Et c'est vrai que de pouvoir compter les uns les unes sur les autres, c'est extrêmement important. Et dans cette idée aussi de ce système académique que vous dénoncez aussi, et qui est un système aussi plus large, qui est comment fonctionne la société. En fait, l'académie n'est peut-être que le reflet de ce qu'on retrouve à d'autres échelles, donc à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du monde politique, à l'échelle même du monde géopolitique, si on regarde des gestions de conflits beaucoup plus vastes. Mais pour revenir à nous, chercheurs en design, moi, je mettrais vraiment un point d'honneur sur l'importance de l'association dans ma thèse. Ça m'a sauvée parce que justement aussi ce monde académique, alors moi je le connaissais pas du tout, donc je me suis retrouvée aussi face à des chercheurs et des chercheuses avec lesquels je ne parlais pas forcément le même langage, et c'était parfois compliqué de faire comprendre la légitimité que je pouvais avoir, et cette légitimité, justement, cette reconnaissance de la légitimité, elle a un impact extrêmement fort sur mon bien-être. C'est-à-dire que si tu n'as pas la reconnaissance de tes pairs, ben, tu te sens pas forcément très bien. Tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Et ça, c'est important de dire qu'on n'est vraiment pas beaucoup de chercheurs en design en France, que cette asso, voilà, elle est pour beaucoup d'entre nous une ressource, qu'elle est ouverte, hein, si vous voulez nous rejoindre, c'est ouvert, et qu'elle m'a permis, en tout cas à moi, de pouvoir exprimer des choses qui n'allaient pas forcément du point de vue académique ou du point de vue de la direction de ma thèse, mais des problèmes aussi, ne serait-ce que de méthodes, d'outils que je pouvais mobiliser au quotidien dans ma recherche ou dans la manière que j'avais de faire recherche. Parce que l'autre pendant, en fait, aussi de notre métier, c'est aussi cette question de la pratique, de ces outils qu'on mobilise qui ne sont pas les mêmes et qui, parfois, sont source de conflits ou... pas conflit au sens on va pas se disputer très fort, mais ce manque de légitimité qui a en tout cas pour moi influé énormément sur mon bien-être en thèse. Et c'est important de se sentir à la fois entouré, mais aussi de savoir que d'autres personnes rencontrent les mêmes problématiques que nous. Et voilà, donc je pense que ces formes en fait de pas de côté, d'à côté, sont extrêmement importantes. Le monde associatif est fait de ça. Et il faut s'y raccrocher parce que parfois les systèmes plus grands, c'est compliqué. Et bon, on va peut-être pas en parler ici parce que c'est pas le sujet, mais il y a peut-être des étudiants et étudiantes en design qui nous écoutent. Moi, j'aimerais beaucoup plus tard qu'on remette aussi ces étudiants au cœur de ces discussions, parce que je pense que ce qu'on met en avant aujourd'hui en tant que chercheur, et parce qu'on a ce temps de réflexivité qu'on n'a pas forcément pendant nos études, c'est aussi peut-être des choses qu'on devrait mettre en place avant. Alors bon, ça peut commencer dès tout petit, je ne vais pas parler de la petite enfance, ce n'est pas le moment, même si c'est mon sujet, bref. Au moins dans le monde de l'enseignement supérieur et de ces écoles d'art aussi qui portent une espèce de poids sociétal énorme.
Moi j'ai l'impression que dans les études de design, il y a quand même ce côté aussi productivité, on a un peu une culture de la charrette, on compare le nombre de nuits qu'on a passé sans dormir. Enfin, en fait, quelque part, pour se rassurer et pour se dire que c'est pas si pire, on en fait une espèce de fierté aussi qui nous fédère. Enfin, c'est souvent ça qui va parfois fédérer une classe quand on est en BTS ou en DSA, c'est de taffer tout le temps.
Ouais, ça nous tient, quoi.
Il y a quelque chose qui tient aussi un groupe ensemble. Et puis je pense que c'est aussi amené parfois par les réseaux sociaux, où on peut, ben, notamment sur Instagram en fait, où on voit tout un tas de portfolios de gens qui font des choses absolument formidables et puis qui ont l'air de produire des nouvelles choses tout le temps, et puis on se dit mince, pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à ce niveau-là, à ce degré-là de perfection technique ou de compétence, etc. Et je pense que ça peut être le rôle aussi, soit de nous en tant que doctorantes, parce qu'on a un petit peu ce recul-là et qu'on a vu autre chose et qu'on a vu ce milieu de la recherche où la productivité, elle est aussi totalement différente, de pouvoir dialoguer avec les étudiants. Et puis, dans les équipes enseignantes, je pense que c'est bien aussi quand il y en a qui essayent de faire ralentir un petit peu leurs étudiants ou de les rassurer sur le fait que explorer, c'est bien. Se tromper, c'est bien, que c'est OK parfois de ne pas aller super bien et de prendre plus de temps pour faire quelque chose et qu'on y arrive à la fin. Et c'est la chance qu'on a dans les formats qu'on a d'études de design, c'est que souvent les promos sont quand même assez petites. Il n'y a pas des classes de 40 ou des grands amphis comme il peut y avoir dans d'autres disciplines. Et du coup, ça peut servir aussi à construire des relations de confiance avec les étudiants pour vraiment construire une manière de faire du design et de faire tout court, en fait, sans être dans la productivité constante, quoi.
Ouais, en fait, c'est cette période d'exploration que constituent les études. En fait, on l'oublie au profit de ces périodes de rendu, quoi. Le rendu, on n'en parle pas assez du rendu. Mais voilà, ça nous met dans des états émotionnels intenses. Alors bon, on est toutes les trois plus ou moins en écriture. On sait aussi que c'est une autre forme d'état émotionnel. Mais quand je pense à tous ces rendus, parfois ça me donne le vertige. Et je me dis que je suis pas capable, enfin je serais pas capable aujourd'hui de les revivre, quoi. Quelle intensité, ouais. Et si le monde enseignant peut écouter un peu ce que nous on a à dire aussi en leur disant ralentissons, ralentissez, que voilà, c'est ok de ralentir, c'est ok de ne pas produire, ouais, hyper important.
J'étais jury de DNMAD là, lundi et mardi à Montreux, et c'était super intéressant parce qu'il y avait un peu deux catégories d'étudiants et d'étudiantes, certains et certaines qui... avaient adoré faire leur mémoire et ça se voyait parce qu'il y avait le côté justement découverte en fait de la recherche pendant le moment du mémoire de DNMAT, donc de troisième année en design, et qui du coup avaient du mal à faire la transition avec le projet et de se remettre à faire après cette phase de recherche. Et puis il y en avait d'autres qui étaient tellement dans des objectifs professionnels de faire un projet abouti, d'être un bon graphiste, d'avoir un truc très protocolaire, bien calé, etc., que du coup il et elle avaient du mal à s'autoriser l'expérimentation. Et bon, là, je sais pas, je peux pas parler à la place de ces étudiantes et ces étudiants, mais je pense qu'il peut y avoir aussi dans les études de design, à un moment, une certaine angoisse de se dire, bon, bah, quand je vais me mettre à bosser, il va falloir que je trouve des clients, il va falloir que je sois efficace, il va falloir que... Et bah, ça peut amener une certaine angoisse aussi, parce que, notamment en design graphique, c'est assez saturé quand même comme milieu professionnel. Du coup, voilà, la recherche ou la découverte de la recherche, ça peut aussi être une respiration là-dedans, en fait. Oui.
Récemment, j'ai donné des cours à des L1 en design. Donc vraiment, en fait, des étudiants qui découvrent le design, ils sortent du lycée. Ça fait 6 mois qu'ils ont commencé. C'était très intéressant parce qu'on a commencé à leur donner des cours d'introduction à la recherche. Je ne crois pas avoir entendu déjà parler d'un cursus qui le fasse aussi tôt que ça dans la formation de design. On a commencé à leur introduire les techniques d'entretien. On leur a demandé d'aller faire un entretien, de faire une retranscription, etc. Enfin, qui sont des méthodes classiques en recherche. Et je crois qu'on a réussi à en toucher, sur 80 étudiants, peut-être un tiers qui commence à percevoir les bienfaits d'une posture aussi de découverte et d'être dans une posture d'enquête. Et on a appelé ça d'ailleurs essayer de faire émerger le désir d'enquête chez les étudiants, parce que finalement c'est ce qui nous a animés nous aussi probablement d'une certaine manière pour nous amener vers la recherche. C'est qu'à un moment donné il y avait des choses sur lesquelles on avait envie de poursuivre ou d'enquêter et d'aller voir plus loin que ce que nos études nous avaient permises. Et si on peut le faire assez tôt dans une formation de designer, j'imagine que ça peut faire grandir encore plein de choses dans cette dimension, de requalifier ce que c'est que l'erreur, les aider aussi à prendre le temps juste d'explorer, mais sans but précis.
Et puis pas forcément dans un but commercial aussi, parce que c'est ça qui est intéressant en fait dans ce qu'on fait. Alors je dis pas que voilà, il y a des injonctions de la société, il y a le fait qu'il faut manger à la fin du mois, etc. Je suis d'accord, mais effectivement que le design n'a pas qu'une valeur en tout cas commerciale de production d'un service ou d'un objet pour un client précis. Enfin, ça c'est important, je pense, en tout cas c'est ce que ça m'a appris. Moi, je voulais juste finir avec peut-être des petits conseils qu'on pourrait donner aux étudiants, étudiantes en design qui nous écoutent, peut-être même aux jeunes doctorants, parce que nous, on a commencé il y a quelques temps, quelques petites années. Des choses que, si on vous les avait dit, peut-être vous auriez fait différemment.
Oui. Moi, déjà, je me serais rapprochée de design en recherche beaucoup plus tôt. C'est un regret que j'ai parce que mon emploi du temps et le milieu dans lequel j'ai fait ma thèse finalement m'a éloignée en fait de cette communauté. Et du coup j'ai rejoint Design en Recherche en milieu de troisième année, en fin de troisième année, donc il y a un an quoi. Et en fait, de tous les témoignages que j'ai autour de moi, des gens qui étaient impliqués beaucoup plus tôt, c'est un vrai bénéfice de pouvoir parler à ses pairs en design et de pouvoir... de pouvoir échanger et de pouvoir dire là je vais pas bien parce que je rencontre telle situation. Ah ouais, mais toi aussi, ok, mais comment t'as fait? Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis d'accepter aussi qu'il y ait des jours où on n'arrive pas à travailler en fait et que c'est pas grave qu'il faut accepter ce temps-là, mais l'accepter pleinement, c'est-à-dire fermer son ordinateur ou son carnet et sortir si vous avez besoin de sortir, faire, je ne sais pas, un dessin, si vous avez besoin de faire un dessin. Dernièrement, j'ai fermé mon ordinateur pendant 2 semaines et je l'ai laissé loin de moi à 300 km et ça m'a fait le plus grand bien. Donc je pense que c'est aussi un conseil pratique.
Moi, je crois que j'ai 3 conseils. T'as vu, j'ai trop bien préparé la question. Je dirais avoir des personnes de confiance à qui on sait qu'on peut parler. Ça peut être un enseignant, une enseignante, des amis qui vivent la même chose, des personnes de l'association Design en Recherche. Le deuxième conseil, ce serait aller voir un ou une psy. Et surtout, si vous hésitez à y aller, c'est probablement que vous en avez besoin. Même si vous pensez que vos problèmes ne sont pas assez graves, en fait, c'est des professionnels qui sont là pour ça. Et l'accès à la psychothérapie en France, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a des problèmes de remboursement, les temps d'attente dans les CMP, qui sont pourtant gratuits, sont longs. Mais voilà, vous avez le droit d'y aller, même si vous trouvez que vos problèmes sont pas graves. Et puis, en plus d'adhérer à l'association Design en Recherche, si vous êtes en design, vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord PhD Students, où j'ai l'honneur d'être modératrice. C'est un endroit super où, en fait, il y a des doctorants et doctorantes de toutes les disciplines qui partagent à la fois des conseils méthodologiques, leur vécu, leurs problèmes d'encadrement, ou leur passion pour les jeux vidéo ou les patates et le fromage. Donc voilà, c'est aussi ce genre d'espace qui permet de mieux vivre son doctorat.
Bah, pour ajouter à ce que vous avez dit, donc adhérer à l'asso, on va croire que c'est un message. Non, non, je rigole, mais c'est super important. Mais je dirais aussi que la thèse nous offre ce moment de réflexivité aussi d'éloigner toutes les personnes qui peuvent être nocives, que ce soit dans le monde de la recherche ou dans la vie en général, et de savoir dire stop. Dire bah non, en fait, cette personne, je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas la voir, pour justement savoir ce qui est bien pour soi, mais ce sera peut-être aussi bénéfique pour cette personne-là. Donc savoir aussi, voilà, peut-être couper des formes de relations, qu'elles soient professionnelles ou pas, qui influent énormément, en fait, aussi sur notre travail de recherche. Et ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, Élise, la frontière, hein, la porosité entre ces deux mondes, personnel et professionnel, elle est tellement, tellement fine en thèse que justement, protégez-vous vis-à-vis de ça. Et puis, la deuxième chose, moi, que je dirais, c'est aller faire des activités physiques, en fait, ou manuelles. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Peut-être que le sport, ce n'est pas la bonne... c'est pas votre moyen de prendre soin de vous. Moi, ça m'a aidé en fait. Ce rapport au corps m'aide énormément pour écrire, mais c'est assez personnel. Mais en tout cas, essayez d'utiliser votre main, d'utiliser votre corps, d'utiliser vos sens, et pas forcément de remettre toujours votre tête, votre psychique, qui déjà avance à 100 à l'heure, qui est toujours, toujours en mouvement, pour prendre soin de vous, pour favoriser votre bien-être. Et sachez que si vous prenez soin de vous, vous aussi, vous serez plus en mesure de prendre soin des autres. Alors si ça peut être un moteur pour vous de vous dire je vais peut-être pas commencer par moi, mais commencer par les autres, même si je suis pas sûre que ce soit adapté à tout le monde, bah pourquoi pas. Mais sachez, et puis vous prendrez soin aussi de tout l'écosystème que vous nourrissez, qu'il soit celui de la recherche, que ça soit de votre environnement, on parlait des plantes vertes, enfin voilà, je pense que c'est hyper important. C'est sûr. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Élise, merci Justine,
merci Marion.
Le podcast de Design en Recherche est une initiative de l'association éponyme, conçue et produite par les doctorants, doctorantes, jeunes chercheuses et chercheurs en design. Pour suivre nos activités, nous vous invitons à consulter notre site internet designenrecherche.org et notre compte Instagram. À bientôt !